Chapitre 105, où M. Jacqual cherche un dénouement à la vie accidentée de M. Gérard. M. Gérard, pâle, vert, livide, suant, tremblant, entra dans le cabinet. « Ah, M. Jacqual ! » s'écria-t-il, « M. Jacqual !» Et il tomba sur un fauteuil. « c'est bien, » dit M. Jacqual. « Remettez-vous, honnête M. Gérard, nous avons le temps de penser à vous. » Puis à l'huissier et à demi-voix, « Descendez vite, vous avez vu sortir un jeune homme et un chien, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. On va arrêter l'homme et le chien, car l'un est aussi dangereux que l'autre. Mais que, sur la tête de ceux qui les arrêtent, il ne soit fait aucun mal, ni à l'homme ni au chien, vous entendez ?»« Oui, monsieur. » »« Alors dépêchez-vous, je n'y suis plus pour personne. Que l'on mette les chevaux à la voiture, allez !» L'huissier disparut comme une vision. M. Jacqual se retourna du côté de M. Gérard. Le misérable semblait près de s'évanouir. Il n'avait plus la force de parler, il joignait les mains. « c'est bien, » dit M. Jacqual avec dégoût. « On avisera, soyez tranquille. Mais en attendant, mettez-vous à la fenêtre et dites-moi ce qui se passe dans la cour. « Comment vous voulez que, dans l'état où je suis... » « Honnête, monsieur Gérard, dit le chef de la police, vous venez me demander un service, n'est-ce pas ?»« Oui, un grand service, monsieur Jacqual. »« Eh bien alors, la vie n'est qu'un échange de services. J'ai besoin de vous, vous avez besoin de moi, entraidons-nous. Je ne demande pas mieux. »« Si vous ne demandez pas mieux, allez à la fenêtre. »« Mais moi, vous viendrez après, au plus pressé d'abord. » Si je ne faisais pas prendre son rang à chaque affaire, je serais encombré. L'ordre, honnête monsieur Gérard, l'ordre avant tout. Allez à la fenêtre d'abord. Monsieur Gérard alla à la fenêtre en s'aidant des meubles qu'il trouva sur sa route. Il semblait avoir les jambes brisées. Il ne marchait plus, il rampait. « J'y suis, » murmura-t-il. « Alors, ouvrez-la. » Tandis que M. Gérard ouvrait la fenêtre, M. Jacqual s'établissait confortablement dans son fauteuil, tirait sa tabatière, y puisait une prise et poussait un soupir de satisfaction. C'était dans la lutte qu'il était vraiment grand, et cette fois il avait trouvé dans Salvator un athlète digne de lui. « La fenêtre est ouverte, » dit M. Gérard. « Alors, regardez dans la cour ce qui s'y passe. Un jeune homme traverse la cour. Bien. Quatre agents se précipitent sur lui. Bien. Une lutte s'engage. » « Bien, regardez avec attention ce qui va se passer, honnête monsieur Gérard, car ce jeune homme tient votre vie entre ses mains. » Monsieur Gérard frissonna. « Oh, mais s'écria-t-il, il y a un chien. »« Oui, oui, et un chien qui a un fier nez, allez. Le chien le défend. »« Je m'y attendais. » »« Les agents crient à l'aide. » »« Mais ils ne lâchent pas le jeune homme, n'est-ce pas ?»« Non, ils sont huit après lui. » « Ce n'est point assez, morbleu. Il se débat comme un lion. Brave Salvator. Il en tient un sous ses pieds, il en étouffe un autre, le chien en étrangle un troisième. Diable, voilà qui se gâte. Que font donc les soldats ?»« Ils arrivent. Ah, ils le terrassent. Et le chien ?»« On lui a mis la tête dans un sac et on lui lie le sac autour du cou. Ces drôles sont fort ingénieux quand il s'agit de leur peau. » on emporte l'homme, et le chien suit. Après, l'homme, le chien et les agents disparaissent sous une voûte. Ah, tout est fini. Refermez la fenêtre, honnête monsieur Gérard, et venez vous asseoir sur ce fauteuil. Monsieur Gérard regarda la fenêtre et revint s'asseoir, ou plutôt tomber sur le fauteuil. Là, fit M. Jacqual, causons de nos petites affaires maintenant. Vous avez donné un grand dîner électoral, mon honnête M. Gérard. J'ai cru, dans la position où j'étais, en me proposant pour la députation, oui, oui, pouvoir essayer de cette petite corruption culinaire. Je ne vous blâme pas, cher M. Gérard, cela se fait. Seulement, vous avez eu un tort. Lequel ? C'est de quitter vos convives au milieu du repas. Mais, monsieur Jacqual, on est venu me dire que vous vouliez me parler à l'instant même. Il fallait remettre les affaires au lendemain et dire comme Horace « Valeat est ludicra ». Je n'ai point osé, monsieur Jacqual. De sorte qu'en votre absence, vous avez laissé vos convives à table. Hélas, oui. sans songer que la table était posée à l'endroit même où vous aviez transporté le cadavre de ce malheureux enfant. « Monsieur Jacqual, s'écria l'assassin, comment savez-vous ? Mais est-ce que ce n'est pas mon état de savoir ? Alors, vous savez, je sais qu'en rentrant chez vous, vous avez trouvé vos convives en fuite, la maison déserte, la table renversée et la fosse vide. « Monsieur Jacqual, s'écria le misérable, ou peut-être le squelette ?» Monsieur Jacqual tira un coin de la nappe posée sur son bureau et mit à nu les ossements. « Le voilà, dit-il. » Monsieur Gérard poussa un cri terrible, se leva comme un fou et se précipita vers la porte. « Eh bien, que faites-vous donc ? » demanda Monsieur Jacqual. Ah, « Je n'en sais rien, je me sauve. »« Bon, où ça ? Vous ne feriez point quatre pas dans l'état où vous êtes sans être arrêté ?» « Monsieur Gérard, quand on veut être voleur, meurtrier, parjure, il faut une autre tête que la vôtre. Ah, je commence à croire que vous étiez né pour être honnête. Allons, venez ici et causons tranquillement comme on doit faire quand la situation est grave. » Monsieur Gérard revint tout en chancelant et s'assit sur le fauteuil qu'il venait de quitter un instant auparavant. Monsieur Jacqual releva ses lunettes et regarda le misérable avec les mêmes yeux dont le chat regarde la souris qu'il tient entre ses griffes. Et puis, au bout d'un instant de cet examen qui semblait faire perler la sueur sur le front chauve de l'assassin, « Vous savez, continua Monsieur Jacqual, que vous seriez un homme véritablement précieux pour un mélodramaturge comme Monsieur Guibert de Pixérécourt ou un romancier comme Monsieur Ducray du Ménil. Quelle vie plus fertile en incidents dramatiques que la vôtre, bon Dieu ! Quelle scène poignante, quelle péripétie palpitante d'intérêt contient le drame inconnu de votre existence ? Ah, sans compter ce chien, où avez-vous donc connu ce chien-là ? Mais c'est un descendant du chien de Montargis. Ah, il faut que ce diable de Brésil ait personnellement quelque chose contre vous. » Monsieur Gérard poussa un gémissement. Monsieur Jacqual ne parut pas l'entendre et continua. « Ah, sur mon honneur, tout Paris voudrait applaudir un drame de cet acabit-là. Il est vrai qu'il n'y a pas de dénouement encore, mais nous sommes là pour lui en faire un, n'est-ce pas, honnête monsieur Gérard ? La toile vient de se baisser sur le quatrième acte, table renversée, fosse vide, convives et domestiques fuyant la maison maudite. Tableau !» « Monsieur Jacqual, murmura l'assassin d'une voix suppliante, « Monsieur Jacqual !» « Oh, je sais bien ce que vous allez dire, que vous ne savez plus comment vous tirer de là. Dame, cela vous regarde. Dans une collaboration, chacun fait sa part et l'un des deux est volé. Moi, j'ai fait la mienne, j'ai arrêté le défenseur de l'innocence et le chien vertueux. Comment ? Mais ce jeune homme qui renversait et étouffait mes agents, ce chien qui les étranglait. Pour qui croyez-vous qu'on mettait à l'un la tête dans le sac et à l'autre les menottes aux mains ? C'était pour vous, ingrat. Ce jeune homme, ce chien ? Ce jeune homme, honnête monsieur Gérard, c'est Salvatore, le commissionnaire de la rue Aufer, l'ami de l'abbé Dominique, fils de monsieur Saranti. Le chien, c'est Brésil, le chien de votre pauvre frère, l'ami de vos pauvres neveux, Brésil, que vous avez cru tuer et que, comme un maladroit que vous êtes, vous avez manqué, ou plutôt frappé, à une mauvaise place et qui vous dévorera tout vivant s'il vous rencontre jamais. Vous pouvez être tranquille. « Oh, mon Dieu !» fit M. Gérard, laissant tomber sa tête dans ses deux mains. « Bon, dit M. Jacqual, voilà que vous faites l'imprudence d'appeler le bon Dieu. Mais malheureux, s'il regardait de votre côté juste au moment où il y a sous la main un orage comme celui-ci, vous seriez foudroyé à l'instant même. Ah, ma foi, tenez, c'est un dénouement comme un autre, et un dénouement moral. Qu'en dites-vous ? Monsieur Jacqual, au nom de ceux qui vous restent de pitié dans l'âme, ne plaisantez pas comme cela, vous me tuez. » Et il laissa tomber ses bras le long du fauteuil, renversant sur le dossier sa tête livide. « Voyons, voyons, ne vous troublez pas ainsi, monsieur Jacqual. Ce n'est, morbleu, pas le moment de pâlir, de vous trouver mal, d'inonder mon parquet de sueur. De l'imagination, monsieur Gérard, de l'imagination !» L'assassin secoua la tête sans répondre. Il était anéanti. Ah, « Prenez garde, dit M. Jacqual, si vous me laissiez finir le drame seul, je pourrais bien ne pas le finir à votre satisfaction. Moi, en auteur moral et en chef de police logique, voici mon avis. Je trouve, par un ressort dramatique quelconque, moyen de faire évader le jeune homme et le chien. Je les laisse aller chez le procureur du roi, chez le garde des sceaux, chez le grand chancelier, où ils voudront. Je fais reconnaître l'innocence de l'innocent, la culpabilité du coupable, et au moment où le bourreau fait la toilette du condamné, je fais crier par son comparse « Monsieur Sarranti est libre, c'est Monsieur Gérard qui est le vrai coupable, le voilà, le voilà !» Et je fais pousser Monsieur Gérard dans le cachot que vient de quitter Monsieur Sarranti en triomphe, au milieu des bravos et des applaudissements de la multitude. » Monsieur Gérard ne put étouffer un gémissement en même temps qu'un frisson parcourait tout son corps. « Ah, que vous êtes donc nerveux !» dit Monsieur Jacqual. « Si j'avais seulement trois collaborateurs comme vous, je ne serais pas 8 jours sans avoir la danse de Saint-Guy. Ah, voyons, parlez à votre tour. Que diable, je vous dis, voilà mon dénouement. Je ne vous dis pas qu'il soit bon. Parlez à votre tour, proposez-moi le vôtre, et s'il est meilleur, je l'accepterai. » « Mais je n'ai pas de dénouement, moi !» s'écria M. Gérard. « Bah, je n'en crois rien, vous n'êtes pas venu ici sans une intention quelconque. »« Oh non, j'étais venu pour vous demander un conseil. »« Ah, c'est médiocre ce que vous me dites là !» Puis en route, je réfléchis. « Voyons le résultat de vos réflexions. » Eh bien, il m'a semblé que vous étiez aussi intéressé que moi à ce qu'il ne m'arrivât point quelque malheur. Pas tout à fait, mais n'importe, allez toujours. Je me suis dit, par exemple, que j'avais 12 heures au moins devant moi. 12 heures, c'est beaucoup, mais enfin, mettons 12 heures. Quand 12 heures, on fait bien du chemin. On fait 40 lieues en payant 3 francs les guides. Quand 18 heures, je suis dans un port de mer, en 24 heures en Angleterre. Ah, seulement il fallait un passeport pour cela. Mais sans doute. « Et vous êtes venu me le demander. »« Justement. »« Me laissant toute liberté, après votre départ, de sauver ou de faire exécuter M. Sarranti. »« Je n'ai jamais demandé sa mort. »« Qu'autant qu'elle pouvait assurer votre vie, je comprends cela. »« Eh bien, que dites-vous de ma demande ?»« De votre dénouement. »« De mon dénouement, si vous voulez. » « Oh, je dis que c'est plat, que la vertu n'est pas punie, c'est vrai, mais que le crime ne l'est pas non plus. »« Monsieur Jacqual, mais enfin, puisque nous ne trouvons pas mieux... »« Vous acceptez ?» s'écria Monsieur Gérard en bondissant de joie. « Bah, dame, il le faut bien. »« Oh, cher Monsieur Jacqual !» Et l'assassin tendit les deux mains à l'homme de police, mais l'homme de police se retira les siennes et fit tinter un timbre. L'huissier entra. « Un passeport en blanc ?» demanda M. Jacqual. « Pour l'étranger, » ajouta timidement M. Gérard. « Pour l'étranger, » répéta M. Jacqual. « Ouf !» fit M. Gérard en s'affaissant dans son fauteuil et en s'essuyant le front. Il se fit un silence de glace entre les deux hommes, M. Gérard n'osant regarder M. Jacqual, M. Jacqual fixant obstinément ses petits yeux gris sur ce misérable, de l'agonie duquel il semblait ne vouloir perdre aucun détail. La porte se rouvrit, et en se rouvrant, fit tressaillir M. Gérard. Ah, « Décidément, dit M. Jacqual, prenez garde au tétanos, car ou je me trompe bien, ou c'est la maladie dont vous mourrez. »« J'ai cru, » dit en balbutiant M. Gérard. Ah, « Vous avez cru que c'était un gendarme. Vous vous êtes trompé, c'est votre passeport. » « Mais, » fit timidement M. Gérard, « il n'est pas visé. »« Oh, homme de précaution que vous êtes !» répondit M. Jacqual. « Non, il n'est point visé, et n'a pas besoin de l'être. C'est un passeport d'agent spécial, et à moins que vous ne rougissiez de voyager pour le compte du gouvernement. »« Oh, non, non !» s'écria M. Gérard, « ce sera beaucoup d'honneur pour moi. » « Dans ce cas, voici votre diplôme. Laissez voyager et circuler librement. »« Merci, merci, monsieur Jacqual !» interrompit le misérable en saisissant le passeport d'une main tremblante, sans laisser le temps au chef de police de continuer sa lecture. « Et maintenant, à la grâce de Dieu !» Et il s'élança hors du cabinet. « À la grâce de Dieu !» s'écria monsieur Jacqual, « car si le bon Dieu se mêle de tes affaires, vil coquin, tu es un homme perdu !» Puis, sonnant de nouveau, « La voiture est-elle prête ?» demanda M. Jacqual à l'huissier. « Elle l'attend depuis 10 minutes. » Monsieur Jacqual jeta un coup d'œil sur lui-même. Il était en tenue irréprochable, habit noir, pantalon noir, escarpins, gilet blanc et cravate blanche. Il sourit en homme satisfait, passa un grand par-dessus, descendit de son pas habituel, monta en voiture et dit « Chez monsieur le ministre de la Justice, place Vendôme ». Puis, presque aussitôt, se ravisant, « Qu'est-ce que je dis donc? Il y a grande fête au château de Saint-Cloud, jusqu'à 2 heures du matin, les ministres y seront. » Et, passant la tête par la portière, « Ah, Saint-Cloud, cocher, dit-il. » Puis, se parlant à lui-même et s'accommodant du mieux possible dans son coin, « Ah, par ma foi, dit-il en bâillant, cela tombe bien, je dormirai en route. » La voiture partit au grand trot, et M. Jacqual, qui semblait commenter au sommeil à volonté, n'était pas encore arrivé au Louvre, qu'il était déjà profondément endormi. Il est vrai qu'arrivé au cours La Reine, il s'était réveillé de la façon la plus inattendue. La voiture était arrêtée, par chacune des deux portières ouvertes, deux hommes montés sur les marchepieds appliquaient un pistolet sur la poitrine de M. Jacqual, tandis que deux autres maintenaient le cocher. Les quatre hommes étaient masqués. M. Jacqual se réveilla en sursaut. « Qu'y a-t-il? Que me veut-on ? » « Pas un mot, pas un geste, dit un des deux hommes, ou vous êtes mort. Comment ? » s'écria M. Jacqual, encore mal éveillé. « On arrête à minuit, aux Champs-Élysées, mais par qui donc la police est-elle faite ?»« Par vous, M. Jacqual, mais rassurez-vous, il n'y a pas de votre faute, nous ne sommes pas des voleurs. »« Qui donc êtes-vous, alors ? » « Nous sommes des ennemis qui avons dévoué notre vie et qui tenons la vôtre entre nos mains. Si pas un mot, pas un geste, pas un souffle, ou, nous vous le répétons, vous êtes mort. » M. Jacqual était pris, sans savoir par qui. Il n'avait aucun secours à espérer, il se résigna. « Faites de moi ce que vous voudrez, monsieur, dit-il. » Un des hommes lui banda les yeux avec un mouchoir, tandis que l'autre continuait de lui tenir un pistolet sur la poitrine. Autant en faisaient les deux autres du cocher. Quand le cocher et M. Jacqual eurent les yeux bandés, un des quatre hommes monta dans l'intérieur de la voiture, et le deuxième s'assit sur le siège près du cocher, auquel il prit les rênes des mains. Les deux autres montèrent derrière. « Où vous savez, dit avec l'accent du commandement l'homme qui occupait l'intérieur de la voiture. » La voiture tourna sur elle-même et, cinglée par un vigoureux coup de fouet, les chevaux l'enlevèrent au galop.